Figures d'hier, pour aujourd'hui et pour demain, une émission présentée par le père Roger Wilhelm.
La face humaine de Dieu, le corps brisé, pourquoi fallait-il? Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances, demande Jésus, ressuscité aux pèlerins d'Emmaüs, après leur avoir reproché d'être sans intelligence et lent à croire? Luc interpellait sûrement ses lecteurs en rapportant ses reproches, et donc aussi nous-mêmes, ce qui ne nous empêche pas de nous demander pourquoi, justement, le fallait-il? Nous comprenons bien l'accablement et le désarroi des disciples après la mort si tragique et infamante de leur maître, et tout l'effort qu'il leur a fallu pour en chercher le sens si improbable. Et après eux, nous invoquons à chaque Eucharistie le corps livré et le sang versé pour la multitude en rémission des péchés. Mais nous nous demandons pourtant pourquoi et comment cette mort violente, parmi tant d'autres, et se sent répandue, ont pu sauver le monde. Nous avons entendu trop de prêches irrecevables sur ce sacrifice expiant le péché et apaisant le courroux de Dieu. Alors, pourquoi ce lien si fort entre la mort, le sang et le péché, et que contient cette notion de salut? Dans la lettre aux Romains, Paul établit une sorte d'antithèse entre Adam et le Christ. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude, dans Romains chapitre 5. Et il précise que c'est par la désobéissance d'un seul homme que la multitude a été constituée pécheresse et que par l'obéissance d'un seul, elle est justifiée. Ce texte semble nous compliquer encore plus la question. Mais c'est justement en assumant toute cette question si complexe que nous pouvons réfléchir. Ce qui est complexe donne à penser. Remontons donc au mythe d'Adam de la Genèse et à son prolongement dans le récit du meurtre d'Abel par Caïn, qui est donc le déclenchement du sang versé et du cycle de vengeance. Nous parlons du mythe d'Adam nous référant aux travaux déjà anciens du cher Paul Ricoeur. Le mythe est un récit qui déborde de signification, mais qui ne se déploie ni au niveau de ce que nous appelons l'histoire événementielle, ni au niveau de la spéculation rationnelle. Le maître dont l'oracle est à Delphes, ne parle pas, il ne s'y dissimule pas, il signifie, disait Héraclite. Comme l'oracle de Delphes, le mythe signifie quelque chose au sujet de l'humain, qui nous laisse interpréter, et il ouvre précisément une multitude d'interprétations. Le mythe d'Adam au chapitre 2 à 4 du livre de la Genèse exprime à la fois la grandeur de l'homme qui est une image de Dieu et sa fragilité même et aussi sa condition dramatique, disons sa blessure. Il faut évidemment écarter l'idée qu'un anthropoïde originel soit historiquement responsable d'une faute qui aurait déclenché le malheur de toute l'histoire de l'humanité. Mais le mythe parle bien d'une condition d'origine, en ce sens que l'homme advient toujours avec la marque de sa grandeur, un appel à la grandeur, une vocation divine, et avec une dramatique blessure. L'homme a partie liée avec le mal dès qu'il naît.
Radio Grand Ciel.
Voici ce que dit Paul Ricoeur. Le mythe adamique révèle cet aspect mystérieux du mal, à savoir que si chacun de nous le commence, l'inaugure, chacun de nous aussi le trouve déjà là, en lui, hors de lui, avant lui. Pour toute conscience qui s'éveille à la prise de responsabilité, le mal est déjà là. En reportant sur un ancêtre lointain l'origine du mal, le mythe découvre la situation de tout être humain. Cela a déjà eu lieu. Je ne commence pas le mal, je l'inue. Je suis impliqué dans le mal. Et Ricoeur écrivait encore, « Dans l'expérience historique de l'homme, chacun trouve le mal déjà là. Nul ne le commence absolument. Si Adam n'est pas le premier homme au sens naïvement temporel du mot, mais l'homme exemplaire, il peut figurer à la fois l'expérience du commencement de l'humanité avec chacun et l'expérience de la suite des hommes. Le mal fait partie de la connexion interhumaine comme le langage, l'outil, l'institution. Il est transmis, il est tradition et non pas seulement événement. Comme si le mal était ce que chacun trouve et continue en commençant, mais en commençant à son tour. Le mythe permet aussi d'interpréter les deux états d'innocence et de péché, non plus en succession, mais en surimpression. Ma bonté primitive, c'est mon statut d'être créé. Le péché a beau être plus ancien que les péchés, l'innocence est plus ancienne que lui. Le mythe permet de maintenir en surimpression la bonté de l'homme créé et la méchanceté de l'homme historique. Il exprime en même temps une solidarité dans le péché, si l'on veut bien admettre que Adam est une figure universelle de l'humain. Jean-Claude Guilbault, l'essayiste, faisait observer récemment qu'il y a aujourd'hui une revendication d'innocence liée à une déculpabilisation de tout, de la sexualité, de l'argent, de la politique, et cette revendication d'innocence correspond à une externalisation du mal. Le mal m'est extérieur, il nous est extérieur, c'est l'autre, les autres, c'est la femme, c'est le serpent. Cette revendication d'innocence extrême entraîne la répression, la punition, l'intolérance. Puisque le mal est chez l'autre, il faut le punir, le combattre. Et le mythe d'Adam exprime au contraire la solidarité des hommes dans le mal. Je suis aussi porteur du mal que je vois chez l'autre. Mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu, dit le psaume 50. Nous ne pouvons penser le mal qu'en tant que nous en sommes porteurs. Je suis débiteur d'une dette que je n'ai pas contractée tout seul et que je transmettrai. Si au contraire, le péché est toujours le fait de l'autre en dehors de moi, je n'ai besoin d'aucun salut, ce sont les autres, les méchants qu'il faut punir. Mais si l'homme est capable de confesser ses péchés, il peut être réinstitué comme homme. Il y a une rédemption possible. Mais qu'est-ce le mal? En quoi consiste-t-il? Le surplus de signification du mythe d'Adam nous en offre une approche. Le mal y apparaît comme la blessure de la relation ou la blessure dans la relation, et cette blessure affecte les quatre grands niveaux de la relation à moi-même, aux autres, au monde et à Dieu. Au départ, c'est-à-dire dans le statut de l'homme créé, toutes les formes de la relation sont sous le signe de la douceur. La création est belle et bonne. L'homme jubile devant la femme et Dieu se promène avec lui dans la brise du soir. nous sommes toujours sous le signe de cette douceur en tant que nous sommes créés et nous en faisons l'expérience dans toutes les formes de la relation, dans le bonheur d'être nous-mêmes, dans la joie d'aimer et d'être aimé, dans la confiance en Dieu et dans la beauté du monde, mais en même temps, nous faisons l'expérience de la blessure de notre relation. Et pour finir, nous recommandons fortement la lecture de cette merveilleuse encyclique du pape François sur cette aventure écologique à laquelle nous devons tous participer, degré si possible, de force malheureusement. Cette encyclique nous rappelle vraiment l'essentiel de notre vocation de créateur à l'image du créateur qui aime cette création. Voilà, à bientôt.